Betty Sengen-Toko est une éducatrice camerounaise qui, depuis 2017, a choisi de se spécialiser dans la méthode d'apprentissage Montessori. Elle a ainsi créé l'Angalendebia, une expression en langue douala qui signifie lire, se connaître, qui est une entreprise dédiée à l'encadrement des enfants. En 2020, avec l'association Entre deux Verres, dont elle est l'une des responsables, elle a organisé un concours d'éloquence dont la thématique était les enjeux du numérique pour la jeunesse camerounaise. Dans le contexte actuel marqué par le téléapprentissage précipité par la crise du Covid-19, par une certaine déresponsabilisation des parents et par la prééminence des outils numériques, Betty Sengen-Toko est une voix avisée sur ces questions que je reçois aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt. Bienvenue dans cette troisième édition de N.com, le podcast des médias du numérique, préparé pour vous et présenté par Rudin Kowa. Pendant cet entretien avec Betty Sengen-Toko, nous tenterons d'en savoir un peu plus sur la méthode Montessori, sur l'influence des outils numériques dans la vie des enfants et des adolescents, et aussi sur le rôle que devraient jouer les parents et la communauté afin de protéger les plus jeunes des dérives de l'Internet. Bonjour Betty, comment tu vas?
Bonjour René, je vais très bien, merci. Et toi-même?
Je vais très bien, merci. Je te remercie aussi de ta présence aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation et d'accepter aussi de parler du lien entre les outils numériques et les enfants et les jeunes.
Je t'en prie.
Tu es une éducatrice qui applique la méthode Montessori. La première question qu'on se pose, c'est celle de savoir ce que c'est que cette méthode pédagogique qui s'appelle Montessori.
Alors, la pédagogie Montessori, c'est une méthode d'éducation qui a été inventée par le docteur Maria Montessori, une Italienne, en 1907. À la base, cette pédagogie était faite pour des enfants à besoins spécifiques, mais au fil du temps, elle s'est rendue compte que c'était une pédagogie adaptée à tout type d'enfants et elle a créé son premier centre qui s'appelait la Casa di Bambini, où elle a commencé par recevoir des enfants à problèmes spécifiques et ensuite il y a eu des filiales dans tout le pays où on recevait de plus en plus toutes sortes d'enfants.
En quoi la méthode d'apprentissage Montessori diffère des méthodes traditionnelles d'apprentissage?
Déjà, la pédagogie Montessori est basée sur trois grands piliers. La posture de l'éducateur, l'environnement de l'enfant et enfin le matériel spécifique adapté pour suivre l'éducation de l'enfant. Alors, en quoi est-ce que cette pédagogie est différente de la méthode classique d'éducation? Je vais citer juste deux. Il y en a plusieurs, bien entendu. La première différence, c'est d'abord autour de la posture de l'éducateur. En ce qui concerne la pédagogie Montessori, le rôle de l'éducateur est plus un rôle d'observateur. Parce que dans cette pédagogie, le slogan, c'est « Apprends-moi à faire seul ». Alors, l'éducateur a pour objectif d'accompagner les enfants dans leur apprentissage. Donc, les enfants apprennent seuls, l'éducateur observe, les accompagne et fait ses propres évaluations. Par contre, la pédagogie classique, c'est depuis la nuit des temps, le maître ou le professeur, il est debout en face des élèves et dicte un cours. Ils dictent le cours où les enfants doivent copier et après ils sont évalués. Ils savent qu'ils doivent être évalués et l'évaluation, autant pour moi, qui est le deuxième critère de différence entre les deux pédagogies, c'est l'évaluation. L'évaluation dans la pédagogie classique est faite en comparaison avec les autres élèves. C'est-à-dire les élèves sont comparés entre eux. Et par contre, la pédagogie Montessori ou toute autre pédagogie alternative, les élèves sont évalués par rapport à eux-mêmes. et ils sont même pas informés qu'ils sont évalués. C'est l'éducateur qui observe les enfants, qui note les acquisitions des enfants sur chaque domaine. Et cette méthode d'évaluation qu'on retrouve dans la pédagogie classique est une grosse source de stress pour les enfants dans leur développement, parce que chaque être humain a un cerveau, a son cerveau qui se développe à son propre rythme. Et la pédagogie classique ne permet pas à l'enfant de se développer, au cerveau de l'enfant de se développer à son rythme naturel, je veux dire. Il doit à tout prix fonctionner au même rythme que les cerveaux d'autres enfants, et ce qui n'est pas, enfin, c'est pas normal, c'est pas logique. Tu ne peux pas demander au cerveau de X de fonctionner au même rythme que le cerveau de Y. Par contre, pourtant, c'est ce qu'on fait dans la pédagogie classique. On regroupe 10 élèves ou 20 élèves, on les évalue sur un même type de sujet. Pourtant, ils n'ont pas le même type de compréhension, ils ne vivent pas dans le même environnement et on leur demande d'avoir la même note. C'est ça qui biaise un peu le système éducatif.
Alors, après cette présentation de la méthode Montessori, on entre dans le vif du sujet. Et là, je vais commencer par une question, je vais dire a priori, qui est simple. Qu'est-ce que l'avènement du smartphone a changé dans la vie des enfants ?
L'avènement du smartphone a changé quoi dans la vie des enfants et des jeunes ? Moi, je vais parler en comparant ma propre jeunesse à celle des jeunes d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, avec mes camarades, avec mes frères et sœurs, on se retrouvait pour rêver, pour rigoler, pour jouer, pour échanger. On se retrouvait vraiment. On était ensemble et des fois on imaginait les couleurs des personnages des dessins animés qu'on voyait sur des télés en noir et blanc. L'avènement du smartphone a changé un peu cette façon de socialiser avec les autres. Aujourd'hui, les enfants préfèrent être amis avec des personnes virtuelles qu'elles n'ont jamais vues, qu'elles ne verront probablement jamais. Se lier une sorte d'affection pour ces personnes-là, parce que quand tu les entends parler, tu te dis que ah, peut-être qu'ils se connaissent, pourtant ce n'est pas vrai. Et alors s'imaginer une vie qu'ils n'auront jamais. Et ça, contrairement à ce qu'on peut penser, avoir des millions d'amis sur Facebook ou sur un autre réseau n'est pas synonyme d'être super social. Au contraire, on peut trouver des grands timides. Et pour moi, l'avènement des smartphones est venu faire un grand changement, plutôt négatif, dans le développement social des enfants et des jeunes.
Il n'y aurait pas quelque part des éléments positifs au fait que les enfants, les jeunes aujourd'hui, puissent avoir accès aux outils numériques et aux smartphones?
Si, il y a des points positifs sur avec un téléphone portable et internet, un enfant peut se connecter sur une plateforme de son école pour faire des devoirs, pour échanger avec des professeurs, ou il peut se connecter sur un réseau comme YouTube pour regarder des vidéos, pour faire des recherches sur Google, etc. Et s'il y a des points positifs à l'utilisation d'Internet et du smartphone, en plus de pouvoir parler aux grands-parents qui sont très loin ou aux amis qui sont très loin.
Mais dans le contexte actuel qui est marqué par la pandémie du coronavirus, qui oblige beaucoup de gouvernements à travers le monde à confiner leur population, et qui incite au téléenseignement, cet événement-là, qui est vraiment très particulier dans l'histoire de l'humanité, ne va-t-il pas consacrer la place du numérique auprès des enfants et des jeunes, vu qu'aujourd'hui, ils sont à la maison et leur moyen d'apprentissage, c'est Internet, c'est l'ordinateur, c'est le smartphone?
Alors déjà, avec l'avènement de la pandémie à COVID-19, le téléenseignement s'est vu vraiment, vraiment grandir. Moi, je vais parler en tant qu'éducatrice. Hein. Je pense qu'on n'était pas prêts. Nous, au Cameroun, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à enseigner à distance. On n'était pas prêts à ce qui est cette méthode-là. Parce qu'au centre, on a essayé. Parce que c'est ce que tout le monde faisait. Nous aussi, on a essayé. Moi, personnellement, je ne me sentais pas en connexion avec les élèves. Et ce qui me fait le plus mal dans durant cette crise, c'est que les enfants étaient très en contact avec les écrans. Ça, c'est les enfants et les écrans, c'est un très, 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 très gros problème qu'il faut régler ici. Parce qu'on a vu, des enfants de CP, de CE1 jusqu'en terminale. Moi, j'ai parlé plus des enfants de l'école primaire parce que c'est encore plus grave chez eux. On les a vus en train d'être connectés à des écrans pendant près de 5 heures de temps pour écouter un professeur ou un maître. Pourtant, nous savons très bien les dangers que peuvent apporter les écrans sur les enfants. Donc, le téléenseignement, c'est bien pour ne pas perdre la face, pour ne pas perdre toute une année scolaire. Mais on n'était pas prêt pour pouvoir concilier les deux. Comment aider l'enfant à ne pas être addict aux écrans et comment diffuser cet enseignement-là. Et après, avec le problème de connexion Internet au Cameroun, ce n'était vraiment pas une évidence pour tout le monde, surtout pour les enfants qui viennent des familles très, très modestes.
En quoi est-ce que les écrans ne sont pas bons pour les enfants?
Moi, je parle des écrans, je parle de tout, la télévision, les smartphones, les tablettes. Alors, les impacts négatifs, les conséquences négatives des écrans sur les enfants sont relevées au niveau du développement de leurs neurones. Beaucoup de parents se disent que pour occuper l'enfant, on peut allumer un smartphone, mettre une chaîne YouTube où on voit les Teletubbies bouger et tout, et que ça, l'enfant va peut-être apprendre à parler ou à compter. Mais les images, les lumières et tout ça, je ne sais pas trop scientifiquement comment on appelle ça. Toutes ces images qui rentrent dans la tête de l'enfant ne facilitent pas le développement de son cerveau. C'est pour cela que entre 0 et 1 an, normalement, c'est 0 écran. Donc, même pas une minute devant une télé. Je crois que c'est 0 et 1 an et demi, hein, par là, ou 2 ans même. Et au fur et à mesure, la croissance, il y a, ok, c'est 5 minutes, c'est 30 minutes par semaine, c'est 1 heure par semaine. Parce que oui, on vit dans un monde où il y a les télés, il y a les smartphones, mais on devrait réduire le temps que les enfants passent devant les écrans. Alors, pendant la COVID, on a instauré le téléenseignement. On s'est retrouvé avec des enfants de 7 ans, de 5 ans, qui passaient successivement par jour 5 heures devant des écrans. Malheureusement, ce n'est pas bon pour leur cerveau, ce n'est pas bon pour le développement de leur imagination et surtout le développement de leur cerveau.
En 2020, l'association Entre deux verres, dont tu es la responsable des activités pédagogiques et culturelles, a organisé un concours d'éloquence sur le thème « Le numérique, quels enjeux pour la jeunesse camerounaise ?» Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème?
Alors, avec les collaborateurs, on s'est assis l'année dernière quand on échangeait autour du thème du concours d'éloquence, les deux concours d'éloquence, parce qu'on en a fait deux, un concours pour les élèves et un concours pour les étudiants. Avant même d'avoir pris une décision, paf, la COVID-19 a fait son apparition et tout, et on s'est retrouvés justement face à ça, face au téléenseignement, face au fait qu'on ne pouvait plus sortir, qu'on ne pouvait plus voir personne. Et du coup, ce qui, entre guillemets, aidait, c'était Internet et les réseaux sociaux. Et c'est là où on a eu cette idée-là de pourquoi pas essayer de parler des effets. Parce qu'en fait, là, sur le coup, on a tous vu, ah, c'est bien, ce que, au moins, on a Internet, au moins, on a les réseaux sociaux pour nous retrouver. Mais toutefois, on savait bien qu'il y a, à la fin, il y aura un effet, à la fin, qu'il y a toujours un effet négatif des réseaux sociaux. Et on a eu cette idée-là de proposer ce thème pour les deux concours d'éloquence en 2020.
Dites-nous deux exemples de ce que vous avez pu tirer de cette expérience-là.
Personnellement, ce que j'ai tiré de cette expérience, c'est que je me suis rendu compte que les jeunes qui ont participé à la compétition, eux-mêmes ont compris les dangers des réseaux sociaux. Eux-mêmes ont compris que le numérique a certes des avantages très très positifs, qu'ils peuvent exploiter le numérique à des fins très très avantageuses pour eux, mais ils ont aussi pu relever eux-mêmes les enjeux négatifs pour leur développement, pour leur vie sociale et des réseaux sociaux.
Selon toi, qu'est-ce que les réseaux sociaux modifient dans le rapport entre les jeunes et leur environnement?
Déjà, dans certains pays, les enfants entre 8 ans et 17 ans n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le droit. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a un bon nombre d'enfants qui sont inscrits sur les réseaux sociaux et qui passent pratiquement 80% même de leur temps connectés seuls sur les réseaux sociaux, sur le smartphone ou sur un ordinateur. Aujourd'hui, les enfants qui sont sur les réseaux sociaux, la tranche de 8 ans à 18 ans, ou à, disons 15 ou 17, ils sont exposés à une vie qu'ils ne devraient pas avoir à cet âge-là. Ils n'ont pas la capacité de se faire des amis dans la vraie vie. Ils vivent dans un monde virtuel où tout semble beau, tout semble parfait, mais ils sont exposés à être lynchés, à être malheureux parce que psychologiquement, ils ne sont pas prêts à subir toutes les informations que les réseaux sociaux bombardent dans leur tête. Ils ne sont pas prêts du tout.
C'est un constat plutôt alarmiste que tu fais. À t'écouter, on n'a pas trop envie que nos enfants se retrouvent sur les réseaux sociaux. Dans toute cette perturbation, pour toi, quel devrait être le rôle que les parents devraient endosser en vue d'assainir les rapports entre les jeunes, leurs enfants et les outils numériques?
Déjà, les parents devraient contrôler le temps de connexion des enfants. La première chose à faire, c'est de se dire, ok, mon enfant a entre 8 ans et 15 ans, c'est non, tu ne dois pas être sur les réseaux sociaux parce que tu es exposé à du harcèlement, de l'arnaque, des insultes, parce que on va dire n'importe quoi, hein, ça, ce sont des enquêtes que j'ai eu à mener sur 10 enfants qui ont été interrogés, 8 ont été insultés. Donc 10 enfants entre 8 ans et 17 ans, 8 ont été insultés sur Internet. Donc les parents doivent déjà être capables de dire aux enfants que entre leurs enfants qui ont entre 8 ans et 17 ans, non, tu ne t'inscris sur aucun réseau. Quand je parle de réseau, je parle de Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. TikTok aussi. Et après ça, quand le parent a réussi à dire non, pour ceux qui ont l'autorisation parentale, parce qu'après tu vas toujours quand même retrouver des enfants de cet âge-là, les parents doivent veiller au contenu que les enfants absorbent sur les réseaux sociaux. Veillez aux informations que les enfants partagent sur les réseaux sociaux et aussi avoir des conversations et des discussions. Pourquoi ? Parce que sur, comme je disais tout à l'heure, sur 10 enfants, il y en a 8 qui ont été insultés. Et sur les 8 qui étaient insultés sur les réseaux sociaux, et sur les 8, il n'y en a que 3 qui en parlent à leurs parents. Et ils en parlent parce que les parents ont soulevé un sujet sur les réseaux sociaux. C'est là où l'enfant il va dire, « Ah tiens, oui, l'autre jour, quand j'ai posté une photo telle, on m'a insulté comme ça, comme ça. » Donc, ce sont ces précautions-là. Il y en a tellement que les parents devraient avoir vis-à-vis de leurs enfants qui sont sur les réseaux sociaux. Et la première précaution, c'est déjà que l'enfant n'y soit même pas. S'il n'a pas l'âge légal pour y être. Et quand il a cet âge-là, le parent devrait vérifier. Parce qu'après 18 ans, ce n'est pas très mature. Le parent devrait encourager, discuter avec l'enfant et voir à quel point les informations qu'il découvre sur les réseaux, je parle d'informations, des informations très choquantes au sujet de la sexualité, du racisme, du tribalisme et autres, comment ces enfants perçoivent ce style d'information, comment est-ce qu'ils réagissent. Et l'enfant ne peut que parler si les parents soulèvent un sujet réseaux sociaux à la maison, dans une réunion de famille, dans une sortie de famille.
D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux enfants, aux parents, à la communauté sur la question de la relation entre les jeunes, entre les enfants et les outils numériques?
Alors, d'habitude, quand j'aborde ce sujet avec des parents, je suis tout de suite lynchée. Hein. Je vais te le dire parce qu'on va me dire, ouais, c'est facile de dire ça. Parce que nous, c'est à la maison, quand tu as peut-être 4 enfants, comment est-ce que tu fais pour les occuper? Ce n'est que la télé, ce n'est que YouTube. Et en plus, elle peut apprendre et tout. Moi, je rigole parce que je me dis, avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça et on a eu quand même une très belle enfance. On a des amis, quand aujourd'hui on parle des amis d'enfance, ce sont des amis, ça date de 20 ans. Ce sont des amis qu'on a rencontrés dans la vie réelle. Ce sont des amis avec qui on a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des amitiés, des enfants, des amitiés qui font 5 ans. Parce qu'ils n'ont pas... Tellement ils sont dans un monde virtuel, un monde où on vend des rêves, ils n'ont pas la capacité de nouer des relations, des vraies relations, des relations réelles avec des enfants de leur âge. Surtout que quand sur Internet, ils n'entendent que des propagations de haine, ils ne voient que des insultes, ils perdent confiance en l'humanité. Et dans la vraie vie, soit ils se retirent, ils sont seuls dans la vraie vie, mais avec des milliers de followers et d'amis sur Internet, soit ils font semblant d'être heureux, comme beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc mon conseil aux parents qui m'écoutent, qui m'ont déjà lynché, et d'autres qui ne me connaissent pas, je continue de penser qu'on devrait être plus strict. Nous, notre enfance, soyons honnêtes, notre enfance en termes de socialisation était 1000 fois meilleure que l'enfance de nos enfants aujourd'hui. On peut revenir à ça si on est strict, si on sait enseigner à l'enfant, si on sait lui dire ce qui est important ou bien comment avoir des amis dans la vraie vie. On pourra les sauver et ils sauront ce qu'ils auront à faire quand ils vont se connecter sur ces réseaux-là.
Merci Betty d'avoir accepté de répondre à mes questions dans le cadre de ce podcast N.com et j'espère que dans ton travail au quotidien avec les enfants et les parents, les jeunes enfants, tu pourras les sensibiliser de manière efficace pour que ces jeunes et ces enfants puissent avoir une relation saine avec les outils numériques, les smartphones et les tablettes, les écrans de manière générale et Internet.
Oh, je t'en prie, René. Merci. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet très, très important pour moi, que les réseaux sociaux et les enfants. Je continue de mener ce combat. Moi, j'appelle ça combat. Et de recevoir des enfants au centre Montessori, Langalinde Bia, à Douala, Bonapriso, au Carré des Artistes. Donc, comme je disais, lors de ma présentation, j'accompagne aussi les parents dans le processus d'éducation de leurs enfants en utilisant la parentalité positive.
Merci Betty.
Merci René.
En effet, vous pouvez retrouver Betty Saint-Gentoco dans son centre d'éveil Montessori, ici à Douala, au Cameroun. Pour notre part, retrouvons-nous le mois prochain dans un nouvel épisode N.com, votre podcast qui traite des questions du numérique et des médias. Retrouvez aussi mes articles sur mon site web kowa.com, nkowa.com. À bientôt!